connaissions pas, connaissions, c'est ça, connaissions. Ouais. Mais les paroles étaient tellement belles, hein. Ça nous parle, que ton amour grandisse, et après dit quoi ? Je te donne tout, je veux tout te donner, je veux tout te donner. C'est magnifique. Que le Seigneur te bénisse et vous bénisse. J'espère la pluie qui tombait pendant la nuit vous a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas, au cas où, est-ce qu'il y a quelque part, il y a eu un dégât ou inondation ou en tout cas, ça ne fait de bien. Le vent et après, rien que le bruit de la pluie, ça nous a fait réveiller. Hein, ça, c'est le, mais en même temps, ça fait du bien. Et puis, il y a certains gens qui disent, le Saint-Esprit tombe comme la pluie. Hein. Je dis, pour mouiller la terre. Ouais, c'était super. Écoutez, apparemment, je dis souvent, écoutez. Quelqu'un qui m'a dit, écoutez, après tu m'entends, écoutez. Voilà. Lendemain de notre culte à Jepsheim. Oh, c'était belle journée. Oh, qu'est-ce que c'était belle. Lendemain à Jepsheim, il y a eu aussi la pastorale de Grand Est. Donc, on était les pasteurs et puis l'épouse et l'époux de pasteur qui étaient là. Et bien, au moment donné, l'après-midi, le ciel change, est couvert de noir. Oh, je me dis, Seigneur, tombe la pluie, fais tomber la pluie. Il n'y avait que quelques gouttes. Mais pourtant, ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est... Quand j'étais dans le sud, il y avait pas mal d'agriculteurs. Donc, je leur demandais, écoute, quel est le meilleur temps ? Le beau temps pour vous, c'est quoi ? Il m'a dit, le beau temps, c'est un temps, une saison qui ne dure pas trop. Ouais, ça, j'ai compris. Oui, on attendait le soleil, mais si le soleil qui dure trop longtemps, on dit, oh Seigneur, fais tomber la pluie. Eh bien, la pluie, ça tombe trop longtemps, oh Seigneur, le soleil nous manque. Ouais, ce n'est pas à notre portée, mais c'est le... Ouais. À Jepsheim, pour le moment de méditation... Donc, celui qui animait ce moment de méditation nous a proposé de lire tout simplement le Jean 21. Il n'y avait pas de commentaire. Il a proposé tout simplement de lire et après de prier. Et pendant la prière, il nous a proposé de citer juste quelques versets qui nous ont parlé, qui nous ont touchés. Donc pendant... 5 minutes la lecture et après 15 et 20 minutes de prière. Et pendant la prière, on citait simplement quelques paroles. En écoutant, dans ma tête, Seigneur, c'est une prédication pour au moins 3 ou 4 dimanches. Ce que j'aimerais bien proposer pendant l'été, donc aujourd'hui, dimanche prochain et jusqu'au 21, car lendemain, nous partirons en Corée, en famille, le 22 juillet. Chapitre 21 de l'évangile de Jean. De quoi parle-t-il ? Voilà, ceux qui ont là le téléphone, cherchez, voilà les jeunes. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez chercher le chapitre 21, dernier chapitre de l'évangile de Jean. C'est l'apparition de Christ ressuscité. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas... Bonjour, c'est très bien. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vous propose juste, voilà, les 8 premiers versets. Mais nous connaissons bien, Christ ressuscité apparaît pendant que les disciples étaient dans la galère, lutte, et après le petit déjeuner sur le rivage, le moment convivial, et après le dialogue entre Christ et Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et après, tout à la fin, il y a deux mots qui sortent plusieurs fois, c'est-à-dire « suis-moi ». Waouh, c'est une traversée, hein, c'est une traversée. Depuis le découragement des disciples jusqu'au renouvellement, avec le mot « est-ce que tu m'aimes ?» Et après il dit « suis-moi ». Je vais vous lire. Brice, est-ce que tu n'as pas mis le mot PowerPoint ? Oui, ok, tout à l'heure. Hein. Voilà, chapitre 21 de l'évangile de Jean, à partir du verset 1er jusqu'au 8. Hein. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Mais en fait, vous savez très bien, en Israël, il n'y a pas vraiment de mer. Hein? La mer, il n'y en a pas. Hein? On appelle par habitude la mer morte ou la mer Tibériade, mais c'est pas une mer. Hein? La mer de Tibériade, on appelle le lac de Galilée. C'est un grand lac. Hein? Mais il a été surnommé par la mer parce que de temps en temps, la tempête, quand elle arrive, c'était tellement violente, donc ils l'ont même appelée la mer. Largeur 14 km et longueur 21 km. Hein. C'est quand même un grand lac. Hein. Mais quand le vent se lève, les vagues arrivent, on dirait c'est la mer. Voilà. Simon, présent. Simon Pierre, Thomas, présent, oui, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher, avec accent circonflexe, hein? Pas accent aigu, hein? Ok, je vais pêcher. Ils lui dirent, Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne le savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, mes enfants, « n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « non. » Il leur dit, « jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons. Car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, à peu près 95 mètres. Ce lundi dernier, pendant ma prière avec cette parole, dans ma tête, il y avait une succession de scènes. Surtout, il y a quelques mots, quelques paroles qui m'ont touché. Ce matin, juste, j'aimerais bien vous proposer ces quelques mots, vous proposer d'entendre ces quelques mots et je partagerai mes pensées, ce que j'ai reçu comme message à partir de chaque mot. Premier mot. Peut-être, tu pourrais retrouver assez rapidement Ou sinon, je peux continuer. Hein? Voilà. Pour l'instant, écoutez bien. Premier mot qui m'a frappé, c'était le mot « encore ». Encore. Jésus se manifesta encore. Et le verset 14, on verra peut-être dimanche prochain, nous précise que c'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis sa résurrection. Première apparition a eu lieu quand tous les disciples étaient enfermés dans la pièce parce qu'ils étaient dans la peur, dans la crainte. Jésus ressuscité se manifeste en disant « Que la paix soit avec vous, comme mon Père m'envoie, je vous envoie aussi. » Et il souffla en disant « Reçois, recevez le Saint-Esprit. » Pourtant, les disciples, ils ne bougeaient pas. Rien ne change, rien ne bouge. Deuxième apparition. Cette fois-ci, tout particulièrement pour Thomas, qui était absent à la première apparition. « Thomas, viens, regarde, même mets ton doigt dans les trous. » Et il dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il a voulu susciter la foi. Il a voulu provoquer la foi. Pourtant, rien ne change, rien ne bouge. Les disciples restent toujours dans cette pièce enfermée. Encore. Oh, quelle patience de la part de notre Seigneur. Mais pourtant, chaque apparition, il ne bouscule pas. Dans la douceur, dans la tendresse, il se manifeste encore. Si ma première apparition n'était pas suffisante, je reviens. Ma deuxième apparition n'était toujours pas suffisante, je reviens encore à la troisième fois. Certainement, les disciples, moi je peux imaginer à chaque fois, « Waouh ! Il est là !» Dans l'émerveillement, c'est ça, dans l'émerveillement extraordinaire, mais quand le Christ disparaît de nouveau, tout retombe, plouf, comme une sorte de, comment on appelle ça, le train russe, hein, Sylvester, du repas, ah Sylvester, oui Sylvester, c'est extra, quelle sensation. La patience de Jésus m'a vraiment parlé, Seigneur, merci Seigneur, tu m'as crié, Seigneur. Moi aussi, combien de fois j'étais dans l'émerveillement, car j'ai vu que tu étais là. Nous avons chanté un chant, hein, là, il répétait, Seigneur est là, Seigneur est là. Un autre moment, je vous confesse, un autre moment, quand je ne vois pas grand-chose, hélas, oui, découragement, même le doute peut arriver. Je me rappelle une confession de foi extraordinaire de la bouche de Jacob. L'Éternel était là, mais moi, je ne le savais pas. La présence de Dieu dépasse même ma propre conscience. C'est la vérité spirituelle, une réalité céleste. Malgré la deuxième apparition, les disciples, ils continuent à cogiter, cette fois-ci, certainement dans la même pièce. J'ai compté combien de personnes qui étaient là, il y en avait sept. y compris Pierre. J'ai essayé d'un peu, imaginer l'ambiance de cette pièce, l'ambiance qui régnait dans ce groupe. Ils se regardaient certainement, échange de paroles, entrecoupés par le moment de silence, et une parole. Ah, t'arrives toujours pas? Okay. Soyez patient comme Christ l'était. Et une parole sort de la bouche de Pierre qui conclut cette réunion. Ce moment. Quelle parole? Trois mots, à votre avis. Je vais pécher. Waouh! C'est une parole très courte, hein, mais combien cette parole est chargée de sentiments, d'émotions et aussi de réflexions. Je reçois d'emblée deux messages. Premier message, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chose que de pécher? Dans le découragement, dans la résignation, Pierre, il dit, ou peut-être dans le dégoût, oh, je vais pécher. Et en même temps, quelle réalité humaine! Combien il était réaliste! Oui, notre maître, il n'est pas là. Mais il faut vivre. Il faut continuer de vivre. Donc, moi, je vous dis, je vais pécher. La réunion est close, car les autres ont dit aussi, nous allons, nous aussi, avec toi. Chacun est rentré chez lui et ils se sont retrouvés plus tard avec leur filet et avec leur barque. C'était la nuit au lac de Galilée. Ils ont repris leur occupation d'antan, leur ancien métier, en pensant que c'est la seule chose que nous pouvons le faire. Ils lancent les filets. Ils relancent les filets pendant toute la nuit. Leur barque se déplace tout le lac. Hélas, l'échec total. À ce moment-là, il y avait un homme. Un homme qui se tenait sur le rivage. Certainement, il observait, il portait son regard sur ces pêcheurs qui se battaient, qui étaient dans la galère. Et il adresse une parole avec une tendresse, j'appelle maternelle. Mes petits enfants, en grec, c'est paidia. Paidia, si on traduit vraiment, littéralement, c'est « Oh, mes petits-enfants chéris !» Et il ne demande pas « Est-ce que vous avez bien pêché des poissons ?» Et il demande « Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Là, cette question-là m'a touché. Hein. En effet, si les disciples, ils ont décidé de reprendre leur filet et leur barque, c'était pour manger. Avez-vous quelque chose à manger? Et là, la réponse des disciples, c'était dramatique et catastrophique. Troisième mot. Non. Un seul mot. Non. Non. Nous n'avons rien à manger. Nous avons décidé de pêcher en reprenant nos filets et nos barques. Nous essayons en ce moment de prendre la situation en main pour continuer nos vies. Mais non, ça ne marche pas. Alors, nous n'avons rien à manger. Je ne sais pas, une telle situation est-elle déjà arrivée dans vos vies? Cette situation vous pousse à dire au Seigneur, rien ne va. Pourtant, je connais très bien le cantique. Mon Dieu est si bon. Na 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 la 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 ta la la ta la li. La parole est simple. Alors, avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Mais Seigneur, actuellement, j'arrive pas à chanter ce chant. Et de ma bouche, une autre parole sort. Rien ne va. Les disciples se retrouvaient dans une telle situation dramatique. C'est alors que Jésus, le Christ ressuscité, dit à ses disciples une parole. Et cette parole changera radicalement, changera complètement la situation. La parole, cette quatrième parole qui m'ont touché, c'était « Jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Nous connaissons la suite de l'histoire. Une pêche abondante et miraculeuse. La parole de Christ ressuscité a provoqué ce miracle. Sa parole a changé radicalement la situation. La situation de rien ne va est transformée en abondance débordante. Qui est cet homme qui nous a dit de jeter vos filets du côté droit et vous trouverez? Qui est cet homme? Tout à coup, Pierre, il entend une phrase. C'est mon dernier mot. J'allais dire Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est là. C'est mon dernier mot. C'est le Seigneur. Le disciple que Jésus aimait, c'était Jean lui-même. Dans son humilité, il ne précise pas son nom, mais on sait que c'était lui. Oh, c'est le Seigneur. Celui qui nous a appelés avec une grande tendresse, mes petits enfants, lui, c'est le Seigneur. Celui qui se tenait debout sur le rivage et portait son regard de bienveillance sur les disciples et sur nous qui étions dans la galère. Celui-là, c'est le Seigneur. Celui qui nous a dit, ne vous découragez pas, continuez de jeter vos filets. Cette fois-ci, je vous indique, du côté droit de la barque, là, vous pouvez jeter et vous trouverez. C'est le Seigneur. Si les paroles des disciples, c'est-à-dire « je vais pêcher », non, les deux paroles peuvent bien aussi exprimer notre réalité humaine. Il nous arrive de le dire. La parole que nous avons entendue, c'est le Seigneur, c'est une vérité spirituelle, réalité céleste, qui est aussi réaliste, même plus réaliste, que les deux premières paroles des disciples. C'est le Seigneur. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'effet de cette parole chez Pierre. Quoi? C'est le Seigneur. Il se jette immédiatement dans la mer, comme un choc électrique. C'est le Seigneur. Cette parole prend immédiatement toute la place chez Pierre. Même la pêche abondante, miraculeuse, l'abondance de poissons, toute autre chose sont devenues secondaires. Le Seigneur me suffit. Il abandonne tout. Il saute dans la mer pour aller voir le Seigneur qui l'aimait tant, qui lui manquait tant. Je me suis en effet posé la question, Pyongwan, et on se pose ensemble cette phrase, c'est le Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure, Seigneur est là, la répétition m'a parlé, Seigneur est là. Est-ce que cette réalité provoque-t-elle, continue-t-elle de provoquer chez nous comme un choc électrique? Waouh! Et ensuite, tout le reste devient secondaire et le Seigneur prend toute la place dans nos vies. Oh, c'est fini. C'était ça, les 5 mots que j'ai voulu partager avec vous. Les 8 versets pour moi, nous allons continuer dimanche prochain et dimanche d'après. C'est une traversée. C'est un cheminement depuis le cri, la parole de résignation totale. Je vais pécher. En passant le cri, non, rien ne va. Et une parole d'espérance, une parole d'assurance du Christ. Ne vous découragez pas. Continuez de jeter vos filets. Et après cette découverte, redécouverte, c'est le Seigneur des jeunes qui diront « c'est trop cool !» Voilà cette réalité-là qui est avec nous. Certes, entre nous, soyons honnêtes, hein, ça nous arrive, hein, non ? À moi seul, je vais pécher. Ah, cette phrase m'a beaucoup appelé. Hein. Ouais. La foi chrétienne. Chrétien, définition de chrétien, c'est quoi? J'ai déjà partagé. Il est réaliste et il est confiant. Karl Marx, il a dit, oh, la religion, christianisme, c'est l'opium du peuple qui fait oublier la réalité. Il s'est complètement trompé. Non, la foi chrétienne, c'est une traversée. Depuis, je vais pécher, en traversant, en passant, non, en écoutant la parole du Seigneur, et on constate de nouveau, oui, le Seigneur est là. Quelle merveilleuse vie d'aventure avec le Christ. Hein? Que le Christ ressuscité soit avec chacun, chacune de nous, et c'est lui qui nous accompagne, qui nous fortifie. Amen. Je vous